Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Trente appels d'offres, dont 27 pour des blocs pétroliers et 3 pour des blocs gaziers du lac Kivu, officiellement lancés hier jeudi par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi rassure cependant que la biodiversité de la RDC lors de la réalisation de ces projets sera respectée. Le processus du départ de la MONUSCO de la RDC a été déjà discuté et le plan du RETRA a même été agréé par le gouvernement congolais. Ainsi affirme le numéro 2 de la MONUSCO au lendemain des manifestations dans le Kivu. Pour le gouvernement, la leçon à tirer de ces événements, il faut une meilleure collaboration avec la MONUSCO. Enfin, comment aider les femmes et jeunes filles victimes des atrocités des ADF, l'ONG Invincible Children exécute un projet baptisé Bomoko Nabosembo dans les Hauts-Touélé. C'est pour les détraumatiser. Nous en parlons avec Christophe Mourouma, responsable de ce projet. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le président de la République a personnellement lancé hier jeudi les 30 appels d'offres, dont 27 pour des blocs pétroliers et 3 pour des blocs gaziers du lac Kivu. Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré quant à la transparence dans la gestion des fonds. Il a aussi rassuré sur le respect de la biodiversité de la République démocratique du Congo lors de la réalisation de ce projet. Selon lui, la RDC ne devrait plus se contenter de célébrer les richesses naturelles dont le pays est doté. Il faut désormais les exploiter pour qu'elles concourent à l'amélioration du social congolais. Un extrait du discours du président de la République, sélectionné par Daniel Tambizoni.
Conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Aussi, je tiens à rassurer que conformément aux normes de l'industrie pétrolière, tous les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement, tels que les acquisitions géophysiques et les forages, seront exécutés avec une étude exhaustive d'évaluation de l'impact environnemental et social et d'un plan de gestion environnementale en vue de minimiser les effets néfastes sur la faune et la flore ainsi que sur les conditions de vie des communautés environnantes.
Signalons que quelques entreprises intéressées par ces appels d'offres étaient représentées à la cérémonie. L'homme d'affaires israélien Dan Gertler était également de la partie. Et puis la biotechnologie végétale, une des solutions pour que la RDC parvienne à augmenter sa production agricole. Professeur Lambert Pungo Kito recommande au gouvernement d'impliquer cet outil dans sa politique agricole afin de répondre à la crise alimentaire que connaît le pays. Appliquée à l'agroalimentaire, la biotechnologie permet l'amélioration du rendement des cultures avec la conception de plantes plus résistantes aux parasites, aux maladies et à la sécheresse. Ce professeur congolais de la diaspora à Southern Utah University aux États-Unis l'a affirmé lors d'un colloque scientifique tenu hier jeudi dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères ici à Kinshasa. Billy Van Lutumba nous propose ici un extrait de son exposé.
Nous devons encadrer nos jeunes gens par l'apprentissage du métier, la création des écoles de métiers agricoles. 41% de la population congolaise est mal nourrie. 8,5% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et si nous voulons que notre économie soit forte, que nous avons une bonne santé, que nous ayons un quotient intellectuel important, que nous luttons contre le chômage, nous devons investir dans le secteur agricole. Retenez une chose, qu'avec la biotechnologie, tout est possible. Parce que j'ai réussi à greffer une plante de pommes de terre et de tomates. Et ça pousse. Si nous laissons d'ici 3-4 mois, nous allons voir des tomates comme fruits et pommes de terre comme tubercule. Donc, nous avons un pays à solution. Nous pouvons faire de merveilles si nous nous y mettons. Si nous travaillons en collaboration avec les autorités politiques, si nous voulons que notre pays décolle. Je suis disposé, avec toute l'équipe, de me rendre sur le terrain et voir dans quelle mesure je peux vous assister pour augmenter la production agricole au Congo pendant que je suis là.
Signalons que le professeur Lambert Pungu est le premier scientifique auteur de la découverte du génome Y. Après 35 ans de recherche dans le monde, un segment d'ADN utilisé en Chine, au Japon et aux États-Unis pour l'amélioration des graminées telles que les riz, le maïs, le blé et bien d'autres. Situation en Nord Kivu. Une accalmie a été observée depuis mercredi dans la ville de Goma après des manifestations lundi et mardi dernier contre la MONUSCO. Les activités socio-économiques ont repris avec la réouverture de boutiques et marchés. À Goma, par exemple, aucune barricade n'est signalée sur les artères principales de cette ville où la circulation a normalement repris. Comme vous le savez, au cours des manifestations qui ont secoué les villes de Goma, Butembo et Beni notamment, il y a eu des morts tant du côté des manifestants que des casquets bleus de la MONUSCO. À ce propos, le chef adjoint de la mission onusienne affirmait que les casquets bleus n'ont pas tiré sur les manifestants. Selon Kassim Diagne, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur ces morts. Il s'est ainsi exprimé au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. On l'écoute.
Je voudrais dire ici que j'ai été en contact régulier depuis le début de ces événements avec nos forces, avec les commandants de secteur, avec le commandant de la force. Et je peux vous affirmer qu'ici, solennellement, la MONUSCO n'a pas tiré sur les foules. Maintenant, pour clarifier cette situation, nous allons mener des enquêtes. Et ces enquêtes nous permettront de savoir exactement d'où ces balles proviennent. Parce que du côté de la MONUSCO, évidemment, nous avons un inventaire de nos armes, de nos munitions, etc. Et on a diligenté une enquête. Ce matin même, je me suis entretenu avec le commissaire de la police, avec les autorités provinciales. Et nous allons faire ces enquêtes le plus rapidement possible avec l'auditorat militaire. Et je félicite d'ailleurs le gouvernement, le Premier ministre, l'ensemble des ministres pour avoir ordonné ou en tout cas autorisé que ces enquêtes puissent avoir lieu le plus rapidement possible.
Et puis à propos de l'objet qui a été à l'origine de ces manifestations, à savoir le départ de la MONUSCO, Kassim Diagne rappelle que le processus du départ de la mission de la RDC a été discuté et les plans du retrait a même été agréé par le gouvernement congolais. Kassim Diagne.
Je pense qu'il y a trois points pour moi essentiels. Le premier, c'est rassurer la population, rassurer nos partenaires, ce soit du côté du gouvernement ou nos partenaires de la société civile, que nous sommes sur le départ. Il faudrait être très clair dessus et pour ça, nous avons un plan concret agréé avec les autorités. Deuxièmement, ne jouons pas le jeu de l'ennemi. C'est une distraction et une distraction qui peut coûter très cher parce qu'aujourd'hui, on est en train de dépeupler des forces qui devaient combattre l'ennemi sur le terrain, pas à Goma. Et aujourd'hui, attention, on fait le glissement sur quelque chose de très dangereux parce que tout simplement, on a une distraction. Et troisièmement, la violence n'est pas la solution. Parce que à qui on va parler parmi ces gens surexcités?
Pour sa part, le gouvernement congolais dit souhaiter une meilleure collaboration avec la MONUSCO. C'est l'une des leçons qu'il faut tirer de ces manifestations, à en croire son porte-parole. Le ministre Patrick Muyaya l'a également dit au cours de la même émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi.
La première leçon à tirer, je crois qu'il faut qu'on améliore sensiblement, que ce soit sur le terrain politique ou les terrains opérationnels ou même le terrain communication, la collaboration avec la MONUSCO. Parce que tout est parti des propos qui ont été dits et qui n'ont pas été bien perçus, ni par les militaires, ni par nous, ni par la population, et il y a eu cette réaction. La deuxième conséquence qu'il faut tirer, c'est qu'il faut jamais recourir à la violence. Lorsque vous recourez à la violence, vous risquez même de perdre la cause principale. C'est pour ça que nous avons réitéré notre appel au calme. Nous avons invité les uns et les autres à s'apaiser. D'ailleurs, il y a une mission gouvernementale qui partira dans la région parce qu'il faut continuer des discussions avec la société civile. Nous sommes heureux de voir que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante et d'autres leaders d'opinion ont pris les devants après le gouvernement pour condamner ce qui s'est passé et en appeler au calme. C'est donc que de cette façon que nous pourrons nous focaliser sur l'objectif essentiel ici, qui est l'ennemi du M23, parce qu'il est question que Bounagana puissent être récupérées, que nos populations déplacées puissent revenir.
Ces extraits ont été sélectionnés par Martin C. Boujangui. Et puis au Nord Kivu, l'école d'initiation des ambassadeurs promoteurs de la paix et de l'environnement s'est dit préoccupée par la crise sécuritaire caractérisée ces derniers jours par les manifestations anti-MONUSCO dans la province et appelle les uns et les autres à privilégier la paix sociale. Cet appel est contenu dans une déclaration rendue publique hier jeudi à l'issue d'une réunion extraordinaire du conseil provincial de cette structure de promotion de la paix tenue le jour même à Butembo. Quelques recommandations ont été formulées pour mettre fin à cette crise et ainsi permettre une paix durable. Suivez l'extrait de cette déclaration lue par Gerlance Paluku Muviri, directeur provincial résident de cette structure.
Aux autorités politico-administratives de la base, aux membres du gouvernement, des institutions de la République, d'harmoniser toute communication pour favoriser la paix sociale et éviter de soulever la population. Aux partenaires divers, plus particulièrement à la MONUSCO, de donner les informations et communications appropriées, opportunes et efficaces pouvant être bénéfiques aux différentes attentes communautaires. Nous appelons toutes les parties prenantes, la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, la société civile, les groupes de pression, d'éviter la violation des droits de l'homme par la promotion des attitudes pacifiques et non violentes pouvant favoriser la cohabitation pacifique et le bon déroulement des activités socio-économiques. Nous appelons également la population et tous les partenaires de collaborer avec nos autorités compétentes et nos forces spécialisées pour la sécurité générale.
Autre nouvelle, au Kwilu, après les eaux chauffourées survenues mardi dernier à Yolo Bazandi, dans le territoire du Diofa, entre la famille Okum et la communauté Banzadi à la suite d'un conflit foncier, les effectifs policiers ont été renforcés sur place. Ces affrontements ont coûté la vie à une personne et quatre autres ont été blessés par balles tirées par des militaires. Le porte-parole de la police de Kwilu, qui l'a dit, appelle la population de Yolo Bazandi à ne pas paniquer à la vue de cette forte présence policière. Selon lui, ces éléments sont là pour éviter l'escalade de la violence. Le colonel Camille Atungale est au micro de Irène Mboma.
Le commissaire provincial de la police Kwilu a dépêché une équipe de policiers du groupe mobile d'intervention Nord pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce coin-là où les deux tribus sont en train de s'entretuer. Un groupe qui est parti avant-hier et un groupe qui a suivi mercredi, toujours des éléments du groupe mobile d'intervention basé ici à Bandundu. C'est pour éviter l'escalade, hein, comme il y a eu des blessés et puis il y a également eu un décès. Alors, il fallait nécessairement que l'on puisse renforcer la sécurité dans ce coin-là. Tout ce qu'on peut demander à la population de cette partie-là, c'est de ne pas céder d'abord à la panique, que cette présence policière ne puisse pas les déranger, mais qu'ils se rassurent que si les policiers sont là, c'est pour leur intérêt, c'est pour les sécuriser.
Et puis en plus bref, Jean-Marc Kabunda Kabunda, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale et président intérimaire radié de l'UDPS, a été brièvement auditionné hier jeudi par le parquet général près la Cour de cassation. Un autre rendez-vous avec le parquet a été fixé pour le mardi prochain. Kabunda est entendu sur notamment des faits d'offense au chef de l'État et injures à l'occasion de sa dernière conférence de presse, au cours de laquelle il a fait plusieurs révélations qualifiées de faits graves par le parquet. Et on parle de santé dans cette édition. Dans la province de la Tchopo, 742 785 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans cette juridiction. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu hier au centre de foyer social de Kabondo dans la ville de Kisangani. Jacques Moukonkole.
Cette campagne va se dérouler du 28 au 30 juillet courant sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Les vaccinateurs passeront de porte à porte afin d'administrer quelques gouttes de vaccins aux enfants ciblés. D'où cet appel lancé aux parents afin qu'ils gardent leurs enfants à la maison pendant cette période. Le gouverneur de province les a également conviés à s'approprier cette campagne et à ne pas prêter oreille aux fausses informations.
Nous avons tous le devoir d'arrêter de manière collective la flambée de la poliomyélite en faisant vacciner nos enfants. De grâce, chers parents, ne suivez pas comme à l'accoutumée les mensonges systématiques, les fausses rumeurs qui sont distillées par une catégorie de compatriotes qui propagent de fausses informations contre toutes les campagnes de vaccination.
De son côté, le chef de bureau de l'UNICEF, Mokhtar Khan, a révélé le nombre d'enfants concernés par cette campagne dans la Tchopo. Ces derniers sont répartis dans 428 aires de santé. Tout enfant ciblé présent dans la Tchopo est concerné, quel que soit son statut vaccinal et sa province, a-t-il souligné. Rappelons que cette campagne est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, les députés colistiers de William Ruto à la présidentielle kenyane, Rigathi Gachagua, a été condamné jeudi 28 juillet à rendre à l'État kenyan l'équivalent de 1,7 million d'euros d'argent public qu'il est accusé d'avoir détourné. Lui et William Ruto ont pourtant promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité en cas d'élection. Rigathi Gachagua promet de faire appel.
L'invité.
En province du Haut-Touélé, à Faradje, chef du territoire qui porte le même nom, a connu une longue période d'insécurité entre 2006 et 2012 due à l'activisme des rebelles de la LRA. Leur passage dans ce milieu a laissé de nombreuses victimes, dont des rescapés, des filles et femmes violées ou encore des mutilées. Pour les aider à surmonter ces chocs, l'ONG Invisible Children exécute un projet baptisé Bomoko na Bosembo. Il vise notamment à détraumatiser les membres de la communauté affectée par ces atrocités. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Christophe Mourla, responsable de ces projets. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile. Suivez.
Christophe Mourla, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est quoi ce projet, un peu de mots?
Oui, le projet Bomoko na Bosembo, ou Unité dans la vérité, c'est un projet de justice transitionnelle. Le projet à différentes activités qu'il mène au sein des 11 communautés dans la région frontalière où elle est du Sud-Soudan, dont 6 communautés dans la province du Haut-Ouélé, et 2 communautés dans la province du Bas-Ouélé et 3 communautés dans la province sud-soudanaise. Ces projets organisent des activités ou bien des visites communautaires pendant lesquelles le staff ou les membres de ces projets rencontrent les membres des communautés victimes des atrocités de LRA, échanger, discuter sur leur passé afin de concourir à la guérison mentale, psychologique de leurs atrocités.
Qu'est-ce qui justifie la nécessité de ce projet? On se retrouve à Faradje. Est-ce qu'il y a besoin effectivement de pouvoir implémenter, je ne sais pas comment vous appelez ça, ce projet ici? Est-ce qu'il y avait un besoin?
Oui, Faradje a besoin vraiment des activités de ce projet puisque la communauté de Faradje a été aussi victime des atrocités de LRA. Les conséquences de ces atrocités ont fait à ce qu'il y ait du traumatisme au sein des membres des communautés, qu'il y ait des personnes disparues au sein de ces communautés, et c'est comme ça que le projet vise aussi à implémenter les activités de commémoration afin que les communautés puissent commencer à se souvenir et à commémorer toute perte de leurs personnes disparues, mortes, mais aussi ces souvenirs de leur héritage commun. D'où la communauté a besoin vraiment de ces projets Bomoko na Bosembo.
Est-ce qu'il y a vraiment un impact visible, palpable? C'est vrai, vous avez réuni aujourd'hui par exemple 20 personnes, parmi lesquelles 16 membres du comité de paix, mais aussi 4 femmes issues du groupe leader. Est-ce que vraiment vous arrivez à les détraumatiser?
Comme je vous l'ai dit, le projet organise des visites communautaires. Cette visite, actuellement, c'est la deuxième visite communautaire au sein des Faradje. Pendant la première visite, les communautés ont manifesté leur traumatisme et après, nous avons les psychologues qui échangent avec eux dans le cadre de counseling, de gestion de stress, de détraumatisation, qui organisent aussi des activités psychosociales pour appuyer et aider ces communautés. Par la suite, les communautés aujourd'hui commencent à s'exprimer et à partager ce qu'elles n'arrivaient pas à partager, à échanger dans leur communauté. Aujourd'hui, les membres des communautés attestent et affirment que le projet Bomoko, c'est un projet qui vient répondre vraiment à leurs besoins réels.
Christophe Mourla, mais on sait que généralement ces genres de projets sont limités dans le temps, notamment avec l'appui de partenaires. Ici, pour le cas présent, c'est Invisible Children. Maintenant, l'après-projet, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'on puisse continuer à assister justement les victimes de ces atrocités de la LRA? Ça va se passer comment pour que cet élan-là d'appui, de détraumatisation ne puisse pas se casser brusquement à la fin du projet?
Au fait, le projet Bomoko est exécuté par Invisible Children, mais en partenariat avec les partenaires locaux qui maîtrisent qui ont beaucoup d'expérience dans les communautés visées, ciblées par les projets. Notamment, il y a la Commission diocésaine de justice et paix, la CDJP, il y a la CIPED, il y a ODH qui est un partenaire d'appui technique pour des questions de justice transitionnelle, droits de l'homme et les plaidoyers. Il y a aussi un autre partenaire au niveau des ICC, au niveau du Sud-Soudan, qu'on appelle ICCSS, Interchurch Community in South Sudan. C'est un projet alors qui prépare ses partenaires avec les autres partenaires locaux, dont les comités de paix, pour la pérennisation des activités du projet Bomoko. Ces OSC ou organisations de société civile sont renforcées en capacité, sont formées et sont appuyées institutionnellement par IC ou Invisible Children afin de pérenniser les activités du projet Bomoko.
Christophe Mouroula, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.